Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans un nouvel épisode. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Après quasiment 3 mois sans épisode, où je dois avouer que je me suis beaucoup concentré sur le blog, où je vous ai fait pas mal d'articles. D'ailleurs, vous pouvez aller voir tous les derniers articles que j'ai publiés sur le blog. Je reviens en ce début de septembre pour vous faire un épisode sur les dernières rumeurs concernant un peu tous les produits qui devraient, alors je mets bien le « devrait » être annoncé entre parenthèses, lors de ces plusieurs, enfin, on s'attend à plusieurs conférences lors de cet automne 2021. Alors, on va commencer tout de suite par le produit le plus attendu, je pense, par le plus de monde, le nouvel iPhone. Qu'est-ce qu'on sait sur le nouvel iPhone qui devrait normalement s'appeler l'iPhone 13? Je pense vraiment pas qu'on va aller vers un 12S. Ça fait quelques années, ça fait 2 ou 3 ans maintenant qu'Apple n'a plus fait de S. Donc, je pense que maintenant, on est parti sur un cycle où on va avoir un nouveau numéro tous les ans. Donc, iPhone 13 cette année, la gamme devrait s'étendre un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire un iPhone 13 normal, un iPhone 13 mini et une gamme d'iPhone Pro, c'est-à-dire un 13 Pro et un 13 Pro Max. Normalement, si on suit les dernières rumeurs qui sont sorties tout au long de l'été, l'iPhone 13 devrait pas être un gros bump par rapport à l'iPhone 12. Il devrait y avoir de petites améliorations qui seront clairement les bienvenus, au moins pour certaines, mais ça ne devrait pas être une énorme différence avec les iPhones de l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on devrait voir en plus ou en moins ? Déjà, premièrement, le notch, la petite encoche noire qui fait couler tellement d'encre depuis des années sur les iPhones, contrairement aux téléphones Android, elle devrait être un tout petit peu réduite pour cet iPhone 13. D'après les dernières rumeurs, Apple aurait trouvé une solution pour déplacer un tout petit peu le microphone, ce qui fait qu'ils auraient pu réduire un peu la taille de cette encoche. Alors moi, je dois avouer que ça m'a jamais gêné, l'encoche ne m'a jamais gêné. Je trouve d'ailleurs que ça fait une identité à l'iPhone. Alors oui, clairement, les téléphones qui n'ont pas d'encoche, c'est beau d'avoir un écran complet, mais moi, je dois avouer que, alors c'est peut-être parce que j'utilise des iPhones depuis des années, mais je trouve que ça lui fait quand même une identité, quelque chose qui permet de se diversifier par rapport aux autres téléphones des autres constructeurs. Et là, l'encoche ne m'a jamais réellement dérangé. Mais bon, s'ils peuvent un peu la réduire, on va pas aller s'en plaindre. Clairement, ça peut être une amélioration. Deuxième amélioration qu'on attend depuis pas mal d'années maintenant, ça fait une ou deux générations d'iPhone qu'on en parle. Elle devrait normalement, si toutes les rumeurs sont vraies, mais bon, sur ce point-là, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On devrait voir arriver l'apparition du 120 Hz au niveau du rafraîchissement de l'écran. Alors, moi, je trouve que le 120 Hz est vraiment vraiment utile sur des tablettes, sur l'iPad. Je trouve que ça a réellement une utilité. Sur un téléphone, à voir. Je sais pas, il va falloir tester ça quand les nouveaux iPhones vont arriver, mais ça sera toujours bien de l'avoir, mais je vois clairement pas autant d'utilité que sur une tablette, sur un grand écran. Donc bon, c'est clair que si le 120 Hz arrive sur ces modèles, alors c'est pareil, je pense, si le 120 Hz arrive, il y a beaucoup de rumeurs qui le disent et je suis un peu d'avis de ces rumeurs. Je pense que ce rafraîchissement d'écran, cette fréquence de rafraîchissement d'écran n'arrivera que sur les modèles Pro, voire peut-être que sur le Pro Max. Mais je ne pense pas qu'on verra du 120 Hz sur le mini et sur le 13 normal. Le 13 normal devrait, je pense, passer à 90 Hz, contrairement aux 60 dans les iPhones actuels. Je pense qu'on aurait quand même une légère amélioration, ça pourrait passer aux 90 Hz, mais le 120 Hz devrait être réservé à la gamme Pro, voire à la gamme Pro Max. Prochaine amélioration qui devrait arriver normalement sur l'iPhone, et je pense que, enfin moi, pour moi c'est la plus importante et la plus intéressante, je pense que ça sera en gros la dernière grosse amélioration qu'on devrait voir sur cet iPhone. c'est au niveau des capteurs photo. Au niveau des capteurs photo, il se dit qu'il normalement il devrait y avoir des capteurs un peu plus gros, avec une ouverture un peu plus grande, donc ce qui devrait améliorer encore votre prise de vue. Il se dit aussi qu'en vidéo, on devrait avoir comment la profondeur de prise de vue comme on l'avait en photo, c'est-à-dire pour les gens qui ne s'intéressent pas forcément à la photo ou à la vidéo, on devrait avoir cet effet de flou à l'arrière de votre premier plan, à l'arrière de votre sujet, et c'est quelque chose qu'on arrive vraiment à voir sur des boîtiers photo, des vrais boîtiers photo, mais qui est beaucoup plus difficile à avoir sur un téléphone, du fait que sur un téléphone c'est toujours quelque chose qui est fait logiciellement et qui n'est pas fait optiquement. Donc on va voir si Apple implémente ça dans les nouveaux appareils, comme pour le rafraîchissement 120 Hz. Je pense que ça c'est des nouveautés qui arriveront sur la gamme Pro, voire sur la gamme Pro Max, mais c'est pas des nouveautés qui arriveront sur toute la gamme. Je ne pense clairement pas. Il y aura peut-être des petites améliorations sur toute la gamme au niveau photo, mais les grosses améliorations n'arriveront, je pense, que sur le Pro, voire sur le Pro Max. En vrac comme ça, les petites autres améliorations qu'on peut voir arriver, c'est une amélioration de la batterie. Il se dit que les batteries devraient être un petit peu améliorées par rapport à la gamme d'iPhone 12, mais après ça reste à voir, parce que si la prise de vue est améliorée, si il y a le rafraîchissement d'écran en 120 Hz, il se dit aussi qu'il pourrait possiblement sur les gammes pro avoir du 8K. Donc toutes ces petites améliorations pourraient drainer un peu plus de batterie, ce qui fait qu'au final, même s'il y a un peu plus de batterie dans le téléphone, mais qu'il est un peu plus énergivore, on devrait se retrouver au même niveau que l'année dernière. Je ne pense pas qu'Apple redescendra une batterie un peu moins performante que l'année dernière. Donc même si l'iPhone est plus puissant, plus énergivore, mais qu'il y a une plus grosse batterie, je pense que ça devrait rester à peu près l'équivalent de ce qu'on a vu sur les iPhone 12 et les iPhone 11 de l'année d'avant. C'est à peu près tout ce que je vois arriver sur les iPhones. Une nouvelle couleur, il se dit qu'il y a une nouvelle couleur qui devrait arriver pour remplacer le gold, une couleur un peu bronze. Alors si vous m'écoutez sur le podcast, l'image que j'ai utilisée pour faire la vignette de ce podcast, on voit un iPhone 13 possiblement de cette couleur bronze. À voir, ça peut être une couleur qui peut plaire dans certains pays comme les pays asiatiques. C'est une couleur qui peut vraiment plaire. Voilà, c'est à peu près tout moi ce que je vois arriver sur les nouveaux iPhones. Je m'attends pas cette année à une énorme nouveauté au niveau de la connectique. Clairement, on va rester sur le Lightning. Je pense que Apple ne passera jamais à l'USB-C sur son iPhone. Plus j'y réfléchis et plus je ne les vois pas passer à l'USB-C dans l'iPhone. Je pense qu'ils vont rester au Lightning jusqu'au jour où ils vont carrément enlever tous les ports de charge et passer soit en sans fil, soit par un autre système, mais je ne les vois clairement pas repasser à l'USB-C. En tout cas, s'ils ne le font pas cette année, ils ne le feront jamais jusqu'au jour où ils enlèveront tous les ports. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je vois pour l'iPhone cette année. C'est à peu près tout ce que les rumeurs voient aussi sur l'iPhone cette année. Il y aura, comme je le dis, il n'y aura pas d'énormes changements. Ça sera une belle itération de l'iPhone, mais ça ne sera pas une énorme itération qui normalement devrait arriver pour le modèle suivant. Passons maintenant à l'Apple Watch. L'Apple Watch, par contre, là, je pense, et les rumeurs le disent aussi, qu'il y aura de grosses améliorations par rapport au modèle 6 de l'année dernière. Alors, première amélioration, qui du moins la plus visible, c'est que l'Apple Watch devrait changer totalement de form factor. On devrait arriver sur un form factor beaucoup plus dans le style de l'iPhone de l'année dernière, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus carré avec des arêtes beaucoup plus prononcées. Alors moi, quelque chose qui me plaît beaucoup plus, je dois avouer, je l'avais dit dans un épisode précédent, j'ai toujours bien aimé le design de l'iPhone 4. Et je comprends pas pourquoi Apple est reparti sur un design beaucoup plus rond dans les années suivantes. Je trouvais que le fait de faire des arêtes comme ça, bien carrées, le différenciait vraiment des autres gammes de téléphones. Donc bon, l'Apple Watch devrait clairement aller sur ce design-là. Du moins, ça fait quelques semaines maintenant, même presque un ou deux mois que ce design tourne. Donc je vois vraiment pas comment ça pourrait être un faux leak, pardon. Je pense vraiment que l'Apple Watch va avoir ce design cette année. Autre nouveauté, alors non, autre chose qui coïncide avec le boîtier, et c'est une rumeur qui est tombée hier ou avant-hier, je crois qu'elle est tombée hier, au jour où je publie ce podcast. Il se dit depuis hier que du fait de ce changement de form factor de boîtier, les bracelets que vous aviez pour vos anciennes Apple Watch jusqu'au modèle 6 ne seraient plus compatibles. Alors c'est pareil, hein, à prendre avec d'énormes pincettes parce que c'est une news que j'ai vue une fois sur un site américain hier après-midi. Donc va falloir voir si d'autres sites un peu plus qui ont un peu plus pignon sur rue ressortent la même news dans les jours qui viennent. Mais il se dit que les bracelets ne seraient plus les mêmes, ce qui est vraiment dommage pour des personnes. Alors je me prends en exemple parce que c'est l'exemple que j'ai le plus proche, mais pour des personnes comme moi qui ont plus de 50, 60 bracelets que j'avais achetés, alors j'en ai pas forcément tous des Apple d'origine, j'en ai acheté plein sur des sites comme AliExpress qui sont très très bien et que j'utilise depuis des années. Mais pour des personnes comme moi qui ont, ouais, comme je vous le dis, 50, 60, presque 70 bracelets, bah c'est un peu dommage. Parce que ben voilà, il va falloir recommencer une collection avec de nouveaux bracelets. Et puis voilà, c'est vraiment, même pour un côté écologique, c'est un peu dommage d'avoir à se séparer de tous les bracelets-là. Je ne pense clairement pas que je sois le seul à avoir une grosse collection de bracelets. Il y en a des tonnes et des tonnes qui se sont vendues sur AliExpress, sur Amazon, de fabricants tiers. Donc je pense qu'il y a des gens comme moi qui ont acheté des bracelets 2, 3, 4 euros et qui en ont des dizaines et des dizaines. Donc bon, ça serait vraiment dommage. Comme je vous le dis, c'est une rumeur que j'ai vue une fois, donc va falloir que ça se vérifie lors des conférences. Pour l'instant, c'est vraiment à mettre entre gros, gros, gros guillemets. Autre news qui tourne depuis une ou deux semaines maintenant, qui celle-là pour le coup, je pense, est un peu plus plausible, c'est que l'Apple Watch gagnerait 1 mm sur les deux gammes, c'est-à-dire que la gamme qui faisait 40 mm l'année dernière passerait à 41 mm et les 44 mm des autres années passeraient à 45 mm. Alors du fait d'avoir une Apple Watch qui serait plus carrée, je pense que là on verrait vraiment une différence en la portant au poignet, ça ferait une montre quand même un peu plus massive, un peu plus grosse. Je sais, enfin moi c'est quelque chose que je vois autour de moi. Un des reproches que les gens autour de moi font le plus souvent sur l'Apple Watch, c'est le fait que c'est une belle montre, c'est une montre utile, mais c'est une montre qui fait, enfin pour certains c'est une montre qui fait petit au poignet. Alors moi je sais que j'ai des personnes autour de moi qui aiment porter des grosses montres. Et ils trouvent que l'Apple Watch, ils aimeraient bien passer sur une Apple Watch, mais ils la trouvent un peu trop petite au poignet. Donc c'est quelque chose, voilà, qui pourrait vraiment améliorer le fait d'avoir des bords plus carrés et d'avoir 1 mm de plus. Ça pourrait un peu améliorer ce point-là. Au niveau de le fait d'avoir 1 mm de plus pourrait aussi jouer sur les fonds d'écran. Apple peut-être au niveau design des fonds d'écran pourrait peut-être améliorer, rajouter des choses sur le fond d'écran, ce qui serait pas ce qui serait vraiment une chose très bien. Alors moi, comme je l'ai écrit plusieurs fois sur le blog et je l'ai dit énormément dans le podcast, moi l'Apple Watch c'est vraiment la chose que j'utilise mais 100% du temps. C'est le premier truc que je mets le matin, c'est le dernier truc que j'enlève le soir. Donc voilà, l'Apple Watch c'est quelque chose de très très important pour moi. Donc voilà, toute amélioration sera bonne à prendre. Il se dit aussi dans les rumeurs d'un peu moins haut niveau, il se dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles couleurs sur l'Apple Watch, un vert très clair, un vert très pastel, un rose aussi ou un bleu très pastel qui viendrait un peu matcher avec les couleurs des derniers iPad Air. Donc, pourquoi pas? Moi, j'ai toujours pris mon Apple Watch dans un gris sidéral parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus passe-partout comme ça. Mais pourquoi pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir des Apple Watch de couleur. Donc, pourquoi pas diversifier un peu la gamme des couleurs? Ça pourrait être une bonne chose. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vois au niveau de l'Apple Watch et ce qui se dit au niveau de l'Apple Watch. Alors, il se dit énormément de choses au niveau des nouveaux capteurs. On sait qu'Apple rajoute des capteurs, un capteur, au moins un capteur de santé tous les ans. L'année dernière, c'était l'oxygénation du sang, pardon. Mais là, il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans tous les sens. C'est sûr que cette année, Apple va encore rajouter une fonction santé sur son Apple Watch, comme ils le font tous les ans depuis 2-3 ans. Maintenant, quelle va être cette fonction santé? Je préfère vraiment pas me prononcer sur ce sujet-là. De toute façon, tout ce que je vous liste là, alors du moins pour l'Apple Watch et pour l'iPhone 13, on a vraiment plus longtemps à attendre. Là, au moment où j'enregistre, on est le samedi 4 septembre. D'après les dernières rumeurs, soit la keynote, enfin, d'après les grosses rumeurs, et la rumeur à laquelle moi je crois le plus, c'est que les invitations vont être envoyées là, ce mardi, le 7 septembre, et la keynote devrait normalement se dérouler le 14 septembre, c'est-à-dire le mardi d'après, pour une précommande des produits le 17, le vendredi, comme ça c'est le cas tous les ans, pour une livraison des produits le 24 septembre. Donc c'est-à-dire que là, au niveau de l'attente pour avoir la présentation des produits, il nous resterait grossièrement entre une semaine et 10 jours. Donc on a vraiment plus longtemps à attendre pour être au courant de ce qui va être annoncé. Donc voilà, ça c'est les deux produits pour moi qui vont être annoncés lors de la première keynote. Possiblement peut-être un troisième produit, mais ça c'est j'en suis vraiment pas sûr. Ça serait les AirPods 3. Les AirPods 3 dont on parle depuis des mois et des mois. Alors, pas forcément de gros changements, ça va être juste une itération de l'entrée de gamme des AirPods. Le gros changement devrait être beaucoup plus esthétique qu'autre chose. On devrait plus aller sur un AirPods qui va ressembler grossièrement au AirPods Pro sans sans l'embout en plastique mou au bout. Donc en fait, oui, ça sera ni plus ni moins qu'un AirPods Pro la partie qu'on met dans l'oreille d'un AirPods normal. Donc voilà, ils vont en gros raccourcir un peu la taille de la tige qui pouvait déplaire à certains et rester sur un design vraiment un mélange entre l'AirPods Pro et l'AirPods 3 et l'AirPods deuxième génération. Je ne pense pas qu'on devrait avoir. Alors il y aura des petites améliorations sûrement, mais je ne pense pas qu'on devrait avoir de grosses améliorations, de gros bumps au niveau hardware et au niveau fonctionnalité sur les AirPods 3, pardon. Je pense que toutes ces grosses nouveautés, tous ces gros bumps, grosses fonctionnalités devraient plutôt arriver pour les AirPods Pro 2 qui pour le coup ceux-là ne devraient être annoncés que vers le printemps 2022, d'après les rumeurs. Donc voilà. Alors les AirPods 3, comme je vous le dis, possiblement ils pourraient être annoncés en même temps que l'iPhone et l'Apple Watch, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sûr, qui ressort pas dans toutes les rumeurs. Donc, on verra bien. Mais je pense par contre qu'ils devraient être annoncés cette année en 2021. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. À un moment, on va falloir les sortir, surtout s'ils veulent sortir les AirPods Pro 2 l'année prochaine. Ils peuvent pas sortir les deux en même temps. Ils peuvent pas lancer les deux gammes en même temps. Donc voilà, ils sont un peu obligés de lancer les AirPods 3 en cette fin d'année. Alors peut-être pas en septembre, mais sûrement avant décembre pour avoir le champ libre au printemps pour pouvoir lancer la gamme d'AirPods Pro. Alors voilà, j'ai fait à peu près le tour des gros produits qui devraient être annoncés lors de cette première keynote qui devrait se passer dans une semaine 10 jours. Les rumeurs font état aussi de deux autres keynotes durant cet automne. Ça va d'un sens à l'autre. Il y a de gros médias qui annoncent une keynote tous les mois, il y a des médias qui annoncent une keynote toutes les 3 semaines. Il y a des médias qui annoncent que 2 keynotes sur l'automne. Moi, c'est vrai que je pars, j'ai plutôt tendance à partir sur une keynote toutes les 3 semaines, 1 mois, comme ça a été le cas l'année dernière. Je pense qu'on va être sur la même trame que l'année dernière. Lors de la deuxième keynote qui devrait arriver donc, on va dire entre mi et fin octobre, Je vois pas grand chose annoncé. Je vois une keynote assez courte, de 3 quarts d'heure, juste pour annoncer les nouveaux pardon, pour annoncer les nouveaux iPad, donc possiblement la gamme d'iPad normale, l'entrée de gamme, et possiblement l'arrivée du tant attendu iPad mini de nouvelle génération qui devrait reprendre le design de l'iPad Air, qui est attendu, mais alors comme le Messie par certaines personnes depuis des mois et voire des années. Je pense que cette keynote-là, cette deuxième keynote, devrait être réservée à ça. Peut-être un peu de VR en même temps que les iPads, parce que l'iPad est quand même un bon device pour parler de VR. Donc il est possible qu'il reparle un peu de VR lors de cette deuxième conférence, mais c'est quelque chose de vraiment pas sûr. Par contre, au niveau de la présentation des nouveaux iPads, oui, je pense qu'on aura clairement une keynote avant la fin de l'année. Là, je vois vraiment pas comment ils ne pourraient pas présenter le nouvel iPad mini. Il y a tellement de leaks qui sortent, on voit des moules sortir de Chine, on voit des produits de constructeurs, de coques, de tant de choses comme ça qui sortent un peu partout. Donc là, je pense que les leaks sont obligés d'être assez véridiques, et je pense que l'iPad mini de nouvelle génération devrait arriver cet automne. Donc voilà, pour la deuxième keynote, ça serait à peu près ça. Et il y aurait donc possiblement une troisième conférence au niveau du mois de novembre, mi-novembre, je pense, dans ces eaux-là, pour présenter les nouveaux Mac, les nouveaux MacBook. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'annoncé? Enfin, quelles rumeurs tournent au niveau des MacBook? Ben, à peu près toujours les mêmes, hein. Un MacBook Pro de 14 pouces, un MacBook Pro de 16 pouces, donc avec la nouvelle génération de puces. Au niveau de la nouvelle génération de puces, alors il y a débat. Il y en a qui disent que ça serait possiblement dès cet hiver, dans cette nouvelle génération, dans les 14 et les 16 pouces, qu'on devrait voir arriver la puce M2 et la puce M1X serait réservée quant à elle plus vers les MacBook Air et les Mac d'entrée de gamme. Mais on devrait normalement, enfin d'après certaines rumeurs, on devrait voir la puce M2 arriver dès cet hiver dans la gamme Pro des MacBook. Et d'autres disent pour le coup que non, dans toute la gamme de cette année, c'est-à-dire MacBook Air, MacBook Pro 16 et 14 pouces, on devra avoir la puce M1X, et que la puce M2 serait quant à elle réservée plus pour un iMac Pro, voire un Mac Pro qui arriverait plus vers 2022-2023. Mais moi, possiblement plus 2022, on sait qu'Apple avait dit quand ils avaient lancé leur puce Apple Silicon, que la transition durerait 2 ans. Donc 2 ans, ça nous emmène jusqu'à à peu près l'automne prochain, l'automne 2022. Donc moi, clairement, je les vois arriver. Si MacBook, iMac Pro et Mac Pro doivent arriver avec une puce M2, je les vois arriver vraiment milieu automne de l'année prochaine. Mais donc pour cette année, revenons-en à la troisième keynote de cette année. Alors, je vais vous donner mon avis à moi. Moi, je pense clairement que on va voir arriver la puce M2 dès cette année. Moi, comment je vois la gamme évoluer, je vois dès cette année ou début d'année prochaine un nouveau MacBook Air arriver, un renouvellement de la gamme des MacBook Air arriver avec juste un changement de puce, une puce M1X, une puce un peu plus puissante. Par contre, je vois là cette année arriver les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une puce surpuissante M2, vraiment une bête de guerre pour ces MacBook Pro, parce qu'on sait que le 16 pouces est très très attendu par les créateurs de contenu, par les filmmakers, par plein de personnes, par les photographes. Donc je ne les vois pas passer sur une puce M1X, je les vois tout de suite arriver sur une puce M2, vraiment un foudre de guerre sur ce haut de gamme. Au niveau de la connectique, ben je pense, alors il se dit qu'on pourrait revoir arriver l'arrivée du MagSafe, revoir arriver l'arrivée du, enfin le retour du comment, du d'un HDMI. Clairement non, enfin du moins il y a des rumeurs qui vont dans ce sens, mais moi je vais vous donner mon avis personnel, non. C'est pas dans les gènes d'Apple de revenir en arrière sur des petites choses peut-être, mais pas sur des grosses choses comme ça. Ils ne vont pas ressortir des ordinateurs avec une prise HDMI, avec du MagSafe, alors que les derniers MacBook Pro avec l'USB-C marchent très bien au niveau charge. Bon, d'accord, on n'a plus ce système qui faisait que si quelqu'un marchait sur le fil, ça protégeait notre ordinateur. Mais on a tellement de gains avec l'USB-C que je ne les vois pas revenir en arrière. Pareil pour l'HDMI. Ça fait plusieurs années que maintenant Apple a enlevé tous ces ports-là et passé à de l'USB-C, ce qui a forcé tout le monde à acheter des adaptateurs. C'est un peu comme je le disais tout à l'heure pour les bracelets d'Apple Watch. C'est des trucs, alors c'est des rumeurs là qui sortent, enfin pour les bracelets d'Apple Watch, du moins pour le MacBook, c'est une rumeur qui dure depuis des mois et des mois. Mais voilà, c'est des choses que je vois pas des retours en arrière possibles là-dessus. Franchement, Apple a fait vendre des adaptateurs depuis, oui, maintenant presque 3-4 ans. Tout le monde s'est équipé, tout le monde a des 2, 3, 4, 5, voire des fois plus d'adaptateurs. Donc, je ne les vois pas repasser à mettre les ports directement sur l'ordinateur. Donc, moi, mon avis personnel, je vois le nouveau MacBook Pro arriver avec ses 4 ports USB-C, Thunderbolt, et puis une prise cast, et encore. Alors là, on n'est pas à l'abri. Alors, j'y pense moins sur le MacBook parce que pour tout ce qui est créateur de contenu, filmmaker et tout ça, ça serait beaucoup plus difficile. Je ne les pense pas avoir abandonné la prise jack, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Apple a souvent pris des décisions comme ça à l'emporte-pièce, qui au fur et à mesure s'est avéré que tout le reste de l'industrie a suivi. Donc, pourquoi pas un jour voir disparaître carrément la prise jack des Mac, mais je pense pas que ça sera pour cette année. Donc voilà, c'est à peu près tout le tour des rumeurs, ce que je vois pour cette année, enfin de ce qui se dit pour cette année, du moins dans les sites que je suis, tous les sites américains et dans à peu près tous les sites mondiaux qui s'intéressent de près ou de loin à Apple. Comme je vous l'ai dit, il nous reste une dizaine de jours, un peu moins de 10 jours, pour avoir des nouvelles de l'iPhone, de l'Apple Watch et possiblement des AirPods. Donc on va être assez vite fixé sur ces nouveaux produits. Je l'avais dit beaucoup sur le blog, je ne sais pas si je l'ai dit sur le podcast. Moi cette année, je vais clairement changer d'iPhone, je vais changer d'Apple Watch. Donc vous aurez les tests possiblement sur le podcast, mais sûr et certain, vous les aurez sur le blog dès que ces produits sont sortis. N'oubliez pas que pour des personnes comme moi qui enregistrent des podcasts, si vous pouvez prendre ne serait-ce que 2 minutes pour aller mettre une étoile, un commentaire sur iTunes, nous, ça nous aide à remonter un peu dans les classements. Ça aide le podcast, même si pour vous, c'est pas grand-chose. Ça vous prend 1 ou 2 secondes d'aller mettre une étoile, d'aller mettre un commentaire, de partager cet épisode. Ça vous demande pas trop d'efforts, mais pour nous, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes. Donc n'hésitez pas, dès que vous aurez fini d'écouter cet épisode, de le partager, d'aller liker, d'aller mettre un commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao!